CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de ce magazine du Pays Midi-Quercy, qui est le 8e de la série. Nous allons recevoir Julien Birlinger et parler de la charte forestière qui va être mise en place sur le territoire du Pays Midi-Quercy. À quoi servent les bois? Servent-ils à quelque chose? Et comment pourraient-ils servir à quelque chose pour être à la fois entretenus et servir éventuellement de granulés pour faire de l'énergie? En deuxième partie, nous recevrons Marianne Busser, chargée de mission de tourisme au Pays Midi-Quercy, qui nous parle de la politique mise en place par le Pays Midi-Quercy. Vous savez que chaque saison est une nouvelle saison touristique, elle ressemble pourtant aux autres, mais chaque fois on peut affiner l'accueil, l'offre, la promotion du territoire pour accueillir des séjournants, nous dit-elle. Mais avant ça, des annonces. Dimanche 6 mars, les transports culturels vous proposent de vous amener à l'exposition interactive d'art numérique baptisée Nouveau Monstre au TNT à Toulouse. Il faut s'inscrire au Babeltude, 25 place du Bessarel à Saint-Antonin, au 06 82 43 30 82. À Nègrepelisse, c'est le mardi 8 mars, comme partout dans le monde, c'est la journée mondiale des droits de la femme. Mais à la médiathèque Nègrepelisse, vous pourrez voir à 19h une soirée autour de la projection du film « Femmes en filigrane », un documentaire de Marjorie Desjardins. Informations à la médiathèque au 05 63 64 25 55. Toujours à Nègrepelisse, qui débute le 8 mars jusqu'au 16 avril, dans le cadre de la manifestation départementale « Le Big Bang des Arts », la Maison Douce, exposition à la médiathèque, illustration originale de Frédéric Manceau. Et puis, Julien Birlinger, tant qu'il est là, nous a fait une annonce à propos des nuits de la thermographie. Qu'est-ce que c'est que ça?
Les nuits de la thermographie, c'est on profite d'un outil qui s'appelle une caméra infrarouge, qui permet, quand on visualise une maison, ou, par exemple, de voir les pertes de chaleur. Parce qu'on regarde les parois, et si une paroi est mal isolée, mais en fait la chaleur, on va dire, qui est dans la maison, sort de la maison parce qu'elle est mal isolée, et du coup ça va se voir, il y aura un différentiel de chaleur. Par exemple, si une fenêtre n'est pas à simple vitrage, eh ben, elle va plus laisser passer la chaleur que par exemple une vitre à côté qui est en double vitrage ou un mur. Alors l'idée, c'est de prendre donc les maisons sur une commune et d'inviter les habitants à venir chercher l'image de leur maison. Donc on va faire ça à Loz, hein, on va essayer de prendre toutes les maisons.
Le 15 mars, c'est la nuit de la thermographie à Loz.
Voilà, alors que le 23 mars, à Saint-Étienne-de-Tulmont, là comme il y a beaucoup plus d'habitants, on invite plutôt les gens qui ont envie, qui ont réfléchi à rénover leur maison, à nous contacter avant. Et avec cette image, évidemment, c'est une information, il faut savoir l'interpréter. On va faire en sorte d'être au courant s'il y a des gens ou pas avant dedans la maison. Et évidemment, c'est un outil pour inciter les gens à réfléchir à la problématique, mais en aucun cas une image infrarouge seul ne donne un diagnostic. Mais c'est vraiment un outil intéressant parce que même quand on n'y connaît rien en thermique, on a une vision de sa maison qui permet de s'interroger.
Donc vous pouvez prendre contact avec Julien Birlinger au 05 63 24 60 64 pour le 15 mars à Loz et le 23 à Saint-Étienne-de-Tulmont pour avoir des images thermographiques de vos villages, une photo en couleur de nuit. Je vous le disais tout à l'heure, on reçoit Julien Birlinger qui est chargé de mission à tout ce qui concerne l'énergie, le plan climat, toutes ces sortes de choses. Et là, aujourd'hui, on va parler de la charte forestière. D'où ça sort, ça, Julien?
Alors, une charte forestière, en fait, c'est un document présente l'état des lieux de la forêt. C'est-à-dire, on fait un état des lieux précis de la forêt. De quoi est-elle la forêt d'un territoire, évidemment. De quoi est-elle composée? Les types d'arbres, les peuplements, les types de foresteries, c'est-à-dire est-ce que c'est des futaies ou des taillis, des choses comme ça. Mais aussi des usages qu'il y a dans la forêt. Est-ce qu'elle est régulièrement entretenue? Est-ce qu'il y a des promeneurs, des chasseurs, tout ça? Et à partir de ce diagnostic, qui est fait. On le présente à tous ces usagers et à tous les propriétaires de la forêt.
Il y a quelqu'un qui va faire un diagnostic
voilà.
De qu'est-ce qu'il y a dans les forêts et à la saison des champignons
entre autres. Et en fait, l'idée, c'est de faire un diagnostic complet de la forêt, un état des lieux, et de voir ses atouts, ses contraintes, et d'établir un programme d'action pour améliorer l'utilisation de la forêt. Par exemple, si on se rend compte, en faisant le diagnostic, qu'il y a des conflits entre les promeneurs et les chasseurs, entre les propriétaires et les ramasseurs de champignons, on va essayer de mettre en place des actions de sensibilisation, de concertation pour améliorer ces problématiques. Mais une des premières, on va dire, problématiques quand même d'une charte forestière, c'est surtout dans nos territoires où c'est très morcelé, où il n'y a pas une très grosse tradition de gestion forestière, c'est d'arriver à avoir une forêt qui tende à être un peu plus productive que ce qu'elle est aujourd'hui, notamment à produire du bois d'œuvre, si possible, mais surtout du bois énergie, parce que c'est des enjeux locaux, les élus locaux veulent développer la filière bois énergie. Aujourd'hui, on a peu d'entreprises capables de sortir du bois de la forêt. Les propriétaires forestiers gèrent, on va dire, de manière traditionnelle leur lopin de forêt. Et donc, il faut arriver à ce que tout le monde tire dans le même sens pour développer une filière qui, dans un premier temps, de sortir du bois de la forêt, et dans un deuxième temps, avec évidemment la forêt, c'est pas l'agriculture, hein, c'est un peu plus long pour structurer tout ça, et ben, avoir une forêt qui soit productive, qui réfléchisse à son avenir et qui aussi anticipe les changements qu'il peut y avoir. En termes de demande de bois, mais aussi de changements climatiques qui vont inévitablement nécessiter des ajustements. Peut-être que les arbres aujourd'hui ne seront pas les mêmes d'ici 2050, par exemple.
Ah oui, alors il y a plusieurs paramètres, effectivement. Il peut y avoir le paramètre de changement climatique qui fait que des essences méditerranéennes vont survivre dans nos latitudes d'ici la durée de vie d'un arbre. Hein, parce que, bon, voilà, si c'est à l'horizon 15 ou 20 ans, il y a des arbres qui atteignent l'âge adulte qu'à ce moment-là.
Bon. C'est ça.
Mais en même temps, on aura des hivers peut-être rigoureux qui feront qu'ils ne pourront pas se développer comme ça.
Oui, tout à fait. C'est très compliqué, en fait, toutes ces choses-là, parce que on parle du réchauffement climatique, mais en fait, il faudrait plutôt parler de changement climatique. Et il y a des régions du globe qui vont se refroidir, donc qui vont se réchauffer. Alors, les scientifiques, en majorité, tendent à dire qu'on devrait aller vers du réchauffement, mais il y a quand même plein de modèles, il y a énormément d'incertitudes. Donc, il faudrait déjà qu'on connaisse un peu mieux le climat local, son évolution, pour essayer d'anticiper tout ça. Et donc la charte forestière, pour la partie forêt en tout cas, aura aussi à charge de s'occuper de cela, mais aussi de tous les problèmes qui existent déjà maintenant.
Alors les problèmes qui existent déjà maintenant, on le sait, chaque été, les forêts ne sont pas forcément entretenues et les moindres incendies, heureusement chez nous il n'y en a pas eu trop, mais dans les zones de forte sécheresse, les sous-bois pas entretenus, ça fait que les incendies se propagent sous l'effet du vent.
Tout à fait, oui, c'est vrai que les sous-bois non entretenus sont des problèmes dans les zones à risque d'incendie. Donc toutes les zones d'un territoire n'ont pas des risques d'incendie, ne nécessitent pas un entretien très poussé. Mais quand on parle d'entretien, quel entretien on veut? Si on est dans des zones où il y a une forte biodiversité, par exemple, il faut faire attention à ne pas faire un entretien qui nuise à la biodiversité. Par exemple, quand on parle de coupe forestière, bon, ben, une coupe forestière, c'est intéressant, mais des fois, si elle est complètement à blanc, bon, ben, les riverains vont perdre leur habitude. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faut essayer de mettre à plat et de régler dans le cadre d'une charte forestière. C'est vraiment un outil partagé au niveau du territoire. Concrètement, comme je le disais au début, c'est un document, hein, un diagnostic, un programme d'action. Mais c'est un document qui est construit avec tous les acteurs qui touchent de près ou de loin à la forêt.
Oui, donc à partir du diagnostic et des possibilités d'action, il faut échanger avec tous les propriétaires de bois pour voir dans quoi ils s'inscrivent. Alors, ça va être facile pour ceux qui ont des bois dont ils savent qu'ils peuvent tirer une ressource.
Oui. Hein,
donc là, c'est à la limite, on leur propose une filière ben, formidable, bûcheronnage, coupe sombre, hein, c'est-à-dire garder des arbres et ne prélever que ceux qui poussent chaque année.
Oui.
Mais vous allez être confronté, je suppose, à la problématique des petits découpages qui, par exemple, ont permis à des citadins d'avoir le droit de venir chasser dans certaines communes, puisqu'ils sont propriétaires terriens.
C'est la grande problématique dans tout Midi-Pyrénées, hein, c'est qu'on a une propriété forestière très, très morcelée. On a, sur le pays Midi-Quercy, 30 000 hectares, plus de 11 000 propriétaires forestiers, dont, de mémoire, environ 5 000 ont moins de 1 hectare ou 1 ou 2 hectares. Donc on se rend compte qu'il y a là un énorme problème à régler. Et bon, il y a des solutions, mais ça veut dire du travail de terrain, réunir ces personnes, leur proposer une gestion en commun de leurs parcelles. Bon, alors c'est vrai que pour les tout petits propriétaires qui ont moins de 1 hectare, c'est très compliqué. Mais il y en a quand même une bonne partie hein, sur le territoire qui ont au-dessus de 4 hectares. Donc déjà, à réussir à regrouper tous les propriétaires qui ont au moins 4 hectares de forêt, c'est un chantier énorme. Ça va prendre certainement plusieurs années. C'est de la concertation, montrer que c'est plus intéressant de se regrouper pour gérer une parcelle. Du coup, à plusieurs, on peut peut-être embaucher un technicien. Enfin voilà, des choses de ce type-là qui peuvent être faites, évidemment. C'est la priorité, mais on va dire un travail de très longue haleine.
Et donc la charte forestière qui se met en place, à partir du moment où il y a le diagnostic, elle va faire du bruit pour que tous les propriétaires sachent qu'ils peuvent avoir des opportunités, ne serait-ce que de faire entretenir leur bois en échange de ce qui en sera extrait. Enfin, je dis ça...
Voilà, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des actions pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que les propriétaires, si on sort du bois, que ça leur rapporte quelque chose, qu'on puisse installer une activité de bûcheronnage, de débardage et toutes ces choses-là.
Il peut y avoir des perspectives de replantation de certaines essences pour en faire autre chose que du bois de chauffage.
C'est peut-être une solution. Là, j'avoue que je ne suis pas assez spécialiste dans le domaine. Il faudrait inviter les personnes du CRPF.
Le CRPF
Le Comité Régional de la Propriété Forestière.
Qui sont des sylviculteurs.
Sylviculteurs qui conseillent, en fait, leur métier, c'est de conseiller les propriétaires forestiers privés. Hein. Bon, après, quand c'est les forêts publiques, c'est l'ONF. C'est l'équivalent de l'ONF pour les privés. Et il y en a, donc il y a une antenne à Montauban, et sinon c'est régionalisé.
Alors, le Pays Midi-Quercy, qu'est-ce qu'il va faire dans cette opération? Il va financer l'étude? Il va faire appel à des gens qui feront le diagnostic?
Alors, nous allons recruter une chargée de mission charte forestière qui va arriver donc le 2 mars.
Ah d'accord, je croyais qu'on ne pouvait pas la voir parce qu'elle était déjà dans les bois.
Et non, elle n'est pas encore arrivée, c'est pour ça.
Elle arrive donc pour aller voir les bourgeons de mars.
Voilà, en gros, ira voir les bourgeons. Elle va arriver le 2 mars. L'idée, c'est d'avoir un premier comité de pilotage en avril pour présenter la méthodologie de diagnostic, avec déjà des éléments de diagnostic connus. Mais voilà, l'idée, c'est de faire aussi un diagnostic partagé, c'est-à-dire d'aller sur le territoire pour demander l'avis aux gens, la perception que les gens ont de la forêt.
En fait, il s'agit de vérifier des données qu'on a déjà, je suppose, parce que ne serait-ce que les chambres d'agriculture connaissent les parcelles qui sont en jachère, où il n'y a plus de pastoralisme pour nettoyer, etc.
Ouais, les chambres d'agriculture ont des données, le CRPF a des données. Après, l'idée aussi d'aller voir les personnes, c'est de pour co-construire le diagnostic et aussi co-construire le programme d'action. De faire des réunions locales, voir l'intérêt des gens, est-ce qu'ils ont envie d'aller plutôt dans cette direction ou dans une autre. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vienne d'en haut et on leur dise, bon, c'est comme ça qu'il faut faire, braves gens. De toute façon, ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même la propriété privée qui donne le droit à chacun de s'exprimer. Quoi.
De se couper lui-même son bois. Et moi, j'ai besoin de rien. Si vous pouviez m'affûter la chaîne à la tronçonneuse.
C'est ça.
Merci, Julien, d'être venu nous expliquer cette charte forestière. On recevra...
Laetitia Morabito. Qui devrait arriver,
voilà,
va arriver le 1er mars.
D'accord, donc on reparlera de la charte forestière quand déjà il y aura un travail de terrain commencé. Elle pourra nous parler comment elle s'est fait recevoir.
Très bien. Thank you.
CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Je vous le disais au début, on va maintenant se faire une petite virée, parce que c'est ça qu'on fait quand on est en vacances, et il y a une activité qui qualifie tout ça, ça s'appelle le tourisme. On a Marianne Busser qui est chargée de mission, qui s'occupe de ça au pays. Et alors, il y a une politique du tourisme, Marianne ?
Alors, tout à fait. Donc, le syndicat mixte du pays Midi-Quercy développe une politique touristique, et ce, depuis déjà de nombreuses années. Alors, en poursuivant plusieurs objectifs, d'abord, donc, conforter une économie locale qui est existante. Ensuite, l'objectif aussi, c'est de valoriser les espaces naturels, le patrimoine culturel aussi du territoire, et enfin de contribuer à une meilleure vie sociale par le fait de favoriser aussi l'accès de ces services aux personnes, aux résidents, aux populations locales. Alors pour ça, bien entendu, on agit par plusieurs moyens. D'abord en agissant sur de l'accueil et de l'information, et ensuite en essayant de travailler avec les acteurs locaux au développement d'offres qualitatives et thématiques qui semblent être des atouts pour le développement touristique de notre territoire.
Chez nous, les gens qui viennent, ils sont fascinés de voir qu'on a conservé des architectures médiévales et que, y compris, les accueillants sont capables de leur raconter l'histoire qui va avec cette géographie.
Voilà, la découverte des paysages et des villages est en effet donc une des premières motivations de venue sur le territoire des touristes et des excursionnistes, bien entendu.
Oui, c'est pas le tourisme de masse où on reste que 20 minutes pour prendre des photos, remonter dans un car, etc. En général, on vient, on se pose, on respire, on fait connaissance avec les lieux, puis on part faire des randos. Il n'y a pas d'impact négatif sur le territoire, au contraire.
Alors, on a plusieurs types de séjournants et de personnes qui viennent à la rencontre de notre territoire. Il se trouve qu'en Midi-Quercy, la majorité des personnes, des touristes, sont la plupart du temps donc des excursionnistes qui viennent donc à la plupart du temps à la journée. Donc 45% des touristes sont ce type de personnes. Ensuite, on a des personnes qui viennent en séjour, en week-end, et d'autres plus longuement. Voilà. Mais toutes entretiennent un rapport assez privilégié et admiratif face à la nature, à l'environnement. Ça, c'est certain.
Ils viennent ici pour le bon air.
Ils viennent ici pour le bon air, pour la détente, pour les sorties en famille, pour la promenade, voilà.
Et puis le canoë, la spéléo, l'escalade, enfin il y a de l'offre.
Voilà, il y a de l'offre qui existe, qui leur est proposée et qui contribue bien entendu donc à renforcer le pouvoir, on va dire, attractif de notre territoire.
Et alors vous, qu'est-ce que vous faites pour ça ?
Bon, déjà, on met à jour et on met en lumière donc l'ensemble de l'offre existante du territoire, donc, et ce dans le cadre d'actions développées avec les offices de tourisme et syndicats initiatives, qui sont au nombre de 7 pour les offices de tourisme et 5 syndicats initiatives. On va sur aussi des actions de promotion de proximité.
Vous étiez au Salon du Tourisme.
Nous étions donc au Salon du Tourisme.
Avec une batoukade d'enfer.
Avec la compagnie Ouba Samba, donc les 11, 12 et 13 février, où nous avons rencontré donc un vif succès auprès de la population toulousaine, puisque nous avions compté 20% de plus de fréquentation sur notre stand, grâce notamment donc à la compagnie Ouba Samba qui a mis une ambiance festive sur le stand Midi-Quercy. Donc ça, c'est une partie de l'action, celle de renforcer la qualité de l'accueil, de l'information. Une autre action en faveur de la valorisation du patrimoine sur le territoire, qui est un vecteur aussi de découverte de nos clientèles. En 2011, donc, on mettra en place des visites sensorielles adaptées au public malvoyant sur certaines communes, notamment donc des communes intégrées au Massif Central, donc situées sur le territoire de la communauté de communes Quercy, Rouergue, Gorge et l'Aveyron, à savoir donc Saint-Antonin et Caylus. Sur ces communes-là seront développées donc des visites sensorielles pour ce type de public.
C'est déjà le cas à l'abbaye de Beaulieu, par exemple.
Voilà, tout à fait.
Les maquettes tactiles.
Voilà, donc l'abbaye de Beaulieu s'est lancée dans le cadre du programme Monuments pour tous, donc en l'adaptation d'une visite pour les publics malvoyants. Et en parallèle, sur d'autres sites, donc sur Saint-Antonin et Caylus, seront développés ce type d'outils. Donc on arrivera à constituer, je pense à terme sur le pays Midi-Quercy, un réseau d'offres adaptées au public à mobilité réduite, qui est un public prioritaire aussi dans le cadre de la politique de développement touristique durable du pays Midi-Quercy. Aussi, le pays a vocation à intervenir et à proposer de nouveaux modes d'organisation, notamment donc sur l'année 2011 est prévue une étude pour renforcer la structuration des offices de tourisme, gagner en efficacité, mieux s'organiser, mieux répondre aux évolutions des demandes des clientèles sur le territoire.
Avec une coordination, je ne sais pas, utilisant les nouvelles technologies, avec quoi ?
Donc
avec
ça, c'est
un portail ?
Ça, c'est un moyen, oui, d'apporter une meilleure information, de mieux la diffuser et de mieux adapter donc les outils donc aux clientèles. Oui, le e-tourisme, les nouvelles technologies sont un moyen d'atteindre ces objectifs de qualification de l'information. Après, l'ensemble des structures, pour mutualiser les moyens, pour gagner en efficacité, peuvent adopter des modes d'organisation différents que ceux qui existent aujourd'hui.
Mais il y a toujours le dépliant avec toutes les randos, les balades, les chambres d'hôtes, les restaurants et tout ça,
la circulation. Le e-tourisme, bien entendu, correspond à une demande de certaines clientèles, mais ce n'est pas l'unique moyen de renseigner et d'informer. Encore aujourd'hui, certaines clientèles demandent des supports différents, des supports matériels. Et on le voit bien lorsque nous rendons aussi sur les salons. Ces salons, on pourrait penser qu'ils ne trouvent plus leur public, mais il n'en est pas si on continue à avoir des demandes salon. Alors que
quand on
pourrait penser...
Quand on est dans sa voiture, on est content d'avoir un plan avec un petit récit racontant...
Oui, pour certaines clientèles encore, les supports matériels restent demandés. Et le média humain aussi est très important. Je pense que nos territoires ruraux ont tout à gagner aussi en valorisant le contact humain, la parole, le conseil, qui ne peut que passer par des hommes, et le multimédia ne pourra pas apporter tout ça.
Vous reviendrez nous parler de la formation des ambassadeurs dans 2 semaines. À bientôt, Marianne de Busser.
À bientôt, au revoir.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce rendez-vous du magazine du Pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr à la rubrique émission Le MAG du Pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.